dirai quelques mots après la prédication. On va commencer par la prédication. Nous sommes entre Noël et Nouvel An, et cette fête de Noël est encore dans nos mémoires, dans notre esprit. Et je me suis dit que c'était peut-être la fête chrétienne la plus dénaturée, bien plus que Pâques ou que Pentecôte. On a glissé du roi vers le Père Noël, on a glissé de l'étable vers les décorations les plus farfelues, on a glissé du don de soi vers des cadeaux qui, au fond, n'engagent pas vraiment à long terme, et on a glissé de la lumière intérieure vers ces éclairages tous azimuts que nos yeux voient pendant cette fête. Tu peux mettre l'autre si tu veux. Frédéric, merci. Alors, bien sûr que la féerie de Noël, cette joie avec tout le décorum qui va avec, sont certes nécessaires et pourquoi pas, mais pas jusqu'au point de dénaturer la véritable identité de l'enfant de Bethléem. Nous le savons, au départ, Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête païenne qui fête le retour de la lumière. Le solstice d'hiver, arrivant à son terme, la lumière revient, les jours s'allongent. Et je me dis, au fond, pourquoi pas? Pourquoi ne pas laisser, si je puis dire, aux païens leur fête, et nous, en tant que chrétiens, revisiter, revaloriser la naissance de Jésus. Le roi vient de naître sur notre terre, dans notre humanité. Et j'aimerais ce matin avec vous évoquer quelques traits de ce que peut être la royauté humaine et la royauté de ce Fils que nous avons adoré il y a à peine quelques heures. Alors, dans notre humanité, il y a eu des rois qui ont assis leur royauté par la puissance de leurs muscles, de leurs chevaux, de leurs armées, et aller jusqu'à la guerre, jusqu'à l'esclavage, la dictature, utiliser la force pour dominer sur les autres humains et servir leurs propres intérêts, utiliser la violence pour éliminer les rivaux. Et votre région a connu cela, peut-être plus que d'autres régions en France. Hitler, Staline, Napoléon ont utilisé la violence pour asseoir leur royauté. Et la Bible aussi nous parle de rois qui ont utilisé la puissance, la force, la violence pour exercer leur règne. Pharaon d'Égypte, par exemple, qui tue les enfants hébreux, ou Hérode, justement, dans cette période de Noël, qui lui aussi massacre des enfants innocents, pensant éliminer ainsi cet enfant roi que les mages ont annoncé à leur arrivée à Jérusalem. Et la Bible nomme Moloch, Melech, vous avez déjà entendu ces noms-là, la Bible nomme Moloch les rois qui utilisent la violence. Oh, j'ai mis une petite illustration de Moloch. Alors je me dis, si c'est ça un roi qui utilise la violence, qui s'occupe de moi par la force et la violence, eh bien moi j'en veux pas de ce roi-là. Et je pense qu'aucun d'entre nous, ici présents ou devant leur écran, ne veulent un tel roi qui nous force. Qui nous force à accepter sa royauté. Il y a aussi eu dans notre humanité tel roi ou telle reine qui ont utilisé la productivité, le rendement pour asseoir leur royauté, leur gouvernement. Par exemple, en fournissant du travail. Vous avez reconnu notre comique, Charlie Chaplin. Utiliser le rendement, la productivité pour appâter par le mérite, le culte de l'efficacité. C'est une manière de gouverner. Dans nos décennies précédentes, il y a eu beaucoup d'avancées industrielles, matérielles, scientifiques, médicales. Elles ont contribué à notre confort. Elles nous sont utiles. Et c'est bien. Mais en même temps, toutes ces avancées-là, elles nous séduisent. Et quelque part, elles nous rendent esclaves. Aujourd'hui, les deux tiers de votre communauté, de notre communauté, peut-être la moitié de la chrétienté, ne pourrait pas suivre un culte sans ces avancées technologiques. Il y a à la fois des avancées, à la fois du confort, mais à la fois une sorte de séduction, d'esclavage qui nous tient. La Bible parle aussi de tel type de royauté. Elle les nomme les Baals, ce qui signifie maître, propriétaire, le dieu de la fertilité, le dieu de la productivité, le dieu de l'utile, bénir l'œuvre des humains. Et j'aimerais tout simplement nous rappeler et me rappeler aussi, parce que moi aussi je suis séduit par tout ça. Hein. Dès lors que le peuple hébreu s'est installé, il a tellement flirté avec le dieu Baal, par exemple, que le prophète Osée et bien d'autres a appelé le peuple de ce mot assez cinglant et criant, adultère que tu es. C'est instructif. Hein. Alors je me dis, moi je n'ai pas envie d'avoir un roi qui me tient par le mérite, par le rendement. Un tel roi, moi j'en veux pas. Et je pense qu'aucun d'entre nous ne désire être sous la royauté d'un tel gouvernement. D'un tel roi. Moloch, Baal, et je pense que vous avez compris que toutes ces royautés sont des fausses royautés. J'aimerais en citer une troisième qui est peut-être la plus pernicieuse. C'est la richesse. Parce que la richesse nous procure un sentiment de sécurité au même titre que la confiance que le Seigneur veut que nous ayons à son égard. Posséder. Encore et toujours posséder. On se dit pour prévoir, pour prévenir au cas où. « Et Jésus lui-même résume la confiance par ces deux opposés, et c'est venu à votre esprit, je n'en doute pas, ou le Seigneur ou Mammon. Et dans les Actes, au chapitre 8, il est même indiqué que quelqu'un a voulu acheter le Saint-Esprit. Et comment ? Jusqu'où ça peut aller ? L'argent, la richesse est un dieu très, très dangereux. Alors je me dis, moi, je n'ai pas envie d'un roi qui me soudoie pour que je puisse l'aimer, le servir et accepter sa royauté. Ces faux rois auxquels il nous arrive de vouer nos énergies, nos espoirs, notre force, la productivité, la richesse, Moloch, Baal, Mammon, et à différents niveaux, nous en devenons les serviteurs. Le pouvoir, le savoir, l'avoir, ces faux dieux qui dictent nos comportements, nos réactions, nos convictions, et peut-être même jusque dans une fête comme celle de Noël, chaque année, on se dit avec mon épouse, on va réduire les cadeaux, penses-tu ? Noël est à la merci de Moloch, de Baal et de Mammon. Laissons les leurs. Et peut-être faudrait-il que nous fêtions la naissance de Jésus ailleurs qu'à Noël. Peut-être. Noël est à la merci de Moloch, de Baal et de Mammon. Et moi. Où se tapit mon Moloch ? Où se tapit mon Baal ? Où se tapit mon Mammon ? Là, dans mon âme. Comment est-ce que ça joue ? Voilà, mes sœurs et mes frères. La Bible nous raconte l'histoire d'un autre roi, un roi complètement différent de tous les autres rois, parce qu'il n'utilise pas les mêmes moyens que les rois humains que nous avons décrits pour gouverner et pour se faire aimer par les humains. Ce roi-là, l'apôtre Paul l'a décrit dans l'épître aux Philippiens. Frédéric nous affiche le texte et je vais le lire. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre roi, Jésus-Christ, à la place de la puissance, de la violence, il utilise la douceur. Pourtant, il a été tenté par la force. Ses disciples le lui ont dit, « Fais donc descendre du feu du ciel sur ce village de Samaritains qui ne t'accueille pas. Au jardin de Gethsémané, Seigneur, appelle 12 légions d'anges pour qu'ils viennent te délivrer. » Évidemment que le diable a aussi proposer la puissance à Jésus. « Fais-moi donc confiance et tous ces royaumes de la terre, je vais te les donner. » Jésus est ce roi différent. Il utilise la douceur pour asseoir sa royauté. La douceur de l'enfant de Bethléem. La fragilité de se condamner sur la croix au milieu des deux brigands qui pardonnent à ses bourreaux. Face à la puissance, il utilise la douceur. À l'opposé du fer, par l'humain, du mérite ou du rendement, Jésus s'intéresse à notre être, à nous. Il guérit, dit lépreux, même s'il ne reçoit pas le remerciement des 9 autres. Il s'approche d'une étrangère comme de la Samaritaine, de ses laissés pour compte, même si cela va ternir sa propre réputation. Il réjouit des mariés en leur fournissant un vin meilleur pour leurs noces. Il n'utilise pas le rendement, la productivité, le mérite pour asseoir sa royauté. Mais il est différent parce qu'il nous enseigne la générosité, la gratuité. Il ne nous considère pas selon nos mérites, n'est-ce pas? Mais son regard d'amour transperce notre âme. Et enfin, à la place de la richesse, à la place du fait de posséder, Noël nous l'a dit, il se fait lui-même cadeau. Il est différent parce qu'il règne sur nous en se mettant à notre place. Il ne cherche pas à posséder, mais toute l'Écriture nous dit comment il s'est dépossédé justement. Paul l'a bien écrit dans l'Épître aux Philippiens. Et Jésus n'a jamais cherché à se défiler, mais il a assumé notre humanité avec tout ce que cela comporte, avec nos infidélités, nos démissions, etc. etc. Alors, un roi comme ça, un roi qui s'occupe de moi parce qu'il est doux, un roi qui me tient entre ses mains parce qu'il est généreux, un roi qui prend soin de moi parce qu'il se met à ma place, alors je serais complètement idiot et fou de vouloir un autre roi que lui. C'est ce roi-là que je désire. C'est un tel roi auquel j'aspire pour qu'il assoie sa royauté sur moi. Par la douceur, par la gratuité, et par le don de lui-même. Alors, simplement pour terminer, nous sommes devant ce choix. Le pouvoir, le savoir, l'avoir, la puissance, le mérite, l'accumulation. Comment nous font-ils vivre? Comment nous font-ils courir après eux, nous comporter dans notre quotidien? Et peut-être que des journées de fête comme Noël sont d'autant plus révélatrices de ce qui est tapis en rêve, mais qui est tapis dans notre cœur et dans notre âme. Je voudrais faire un pas de plus pour terminer. En fait, la véritable réalité de Jésus, elle va au-delà. Jésus a tout pouvoir. Il sait toutes choses. Et tout lui appartient. Jésus concentre à lui seul ces différents types de règne dont on ne veut pas. Il les a en totalité, il les a complètement, il les a même éternellement, nous dit l'Écriture. Et il aurait eu le droit de les exercer. Il aurait le droit d'asseoir sa royauté sur moi, sur toi, par la puissance. Par le mérite. Tu mérites rien, alors dégage. Il aurait le droit de le faire. Mais ce que nous savons tous, mes sœurs et mes frères, c'est que volontairement, il a renoncé à ce triple droit-là. Justement, pour nous montrer la douceur, pour nous montrer la gratuité et pour nous montrer la dépossession. Et nous le savons. Il le déclare lui-même, « Je suis descendu du ciel pour accomplir non pas ma volonté, dit-il, mais celle du Père Céleste. » Et cette volonté du Père Céleste, l'apôtre Paul l'a décrit en disant, « Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. » Jésus s'est engagé dans cette voie-là, de mettre de côté tout ce dont auquel il pouvait faire appel pour asseoir sa royauté sur nous. Il s'est engagé dans ce chemin-là. Et je me dis que l'engagement de Jésus appelle mon propre engagement. Comment est-ce que je mets de côté la puissance, le mérite ou la possession? Jésus a décidé de ne pas succomber à la puissance, au mérite, à la possession, à cette triple tentation que le diable lui a proposée au début de son ministère. Cette décision de renoncer du Christ appelle ma propre décision. Comment est-ce que je décide de ne pas succomber à la puissance, au mérite ou à la possession? L'engagement de Jésus appelle mon propre engagement. La décision de Jésus appelle ma propre décision. La volonté du Christ à se défaire de Moloch, de Baal et de Mammon appelle ma propre volonté à me défaire de Moloch, de Baal et de Mammon. La naissance de Jésus que nous venons de célébrer, mes sœurs et mes frères, nous appelle, nous aussi, à un nouvel accouchement. La naissance de Jésus nous appelle, nous aussi, à un nouvel accouchement. Amen. Je nous invite au recueillement.